Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite et la fin du roman de Christian Gailly, Un soir au club. Debbie regardait Simon. Lui aussi la regardait. Oui, dit-il, je suis là. Excusez-moi, je réfléchissais. Donc mon fils a appelé. Et alors, qu'est-ce qu'il voulait ? « Je ne sais pas, dit le jeune homme, il m'a simplement dit qu'il vous fallait d'urgence rappeler chez vous. Simon, le rappeler lui ou rappeler chez moi ?» Le jeune homme, il a juste dit, dites-lui qu'il rappelle d'urgence chez lui. C'est clair, il me semble, non ? Oui, dit Simon, merci. Chez Simon, à Paris, c'est le silence. Pas le vide. Anne et Jamie et Dingo sont là. Le silence. Pas l'absence de bruit. On entend le boulevard en bas, assourdi par une distance de 6 étages et 3 fenêtres à double vitrage. Le silence comme absence de parole. Il est presque 19h. Dingo, toujours planqué sous le canapé, va peut-être tenter une sortie. Le téléphone sonne. Anne et Jamie se regardent. Dans ce regard qu'ils échangent, il y a tout ce qu'ils se sont dit pour se rassurer, tout ce qu'ils ont pensé sans se le dire pour éviter de se torturer. Toute parole et pensée tendue vers le téléphone ne visait qu'à l'entendre sonner. Et voilà qu'il sonne. Et chacun regardant l'autre se rend compte que l'inquiétude entre eux se débattait dans une question qu'aucun d'entre eux, durant la petite heure qui venait de s'écouler, n'osa clairement poser. Comment va-t-il ? Comment vais-je le lui annoncer ? Le téléphone sonnait. Simon, là-bas, dans la pièce claire ouverte sur la mer, s'impatientait. Il était sur le point de raccrocher. « Tu veux que je réponde ?» dit Anne. Le visage décomposé, Jamie dit « Non. Laisse-moi faire. » Il s'approcha du téléphone. Alors qu'il décrochait, une pensée le prit de vitesse. « Et si je lui cachais la vérité ?»« Oui, pourquoi pas ?» Seulement voilà un mensonge, un vrai, beau comme la vérité. Pour que ça tienne et dure et puisse tout assumer jusqu'au fond des générations, il faut le préparer, le travailler. Sinon, tôt ou tard, le langage s'y prend les pieds. Jamie, par exemple, sans espoir, aurait pu improviser et dire à son père « Reste où tu es, inutile de rentrer, maman est partie avec un Argentin, elle en avait marre de toi, elle m'a chargé de te le dire, alors continue à faire le zouave, picole, joue du jazz, maman ne viendra pas. » Dingo, pointant le bout de son nez, vit que le panier n'était pas rangé. Il retourna sous le canapé. « Allô ?» fit Jamie. « C'est moi, » dit Simon. « C'est papa. Tu m'as appelé, tu savais où j'étais ?»« Oui, » dit Jamie, « maman m'avait laissé le numéro de ton hôtel. » Ah bon, dit Simon, très bien, mais alors, dis-moi pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère ne vient pas. Pourquoi elle n'appelle pas elle-même? Elle est partie avec son patron. Jamie, ça t'arrangerait bien? C'est vrai, mon garçon, dit Simon, ça m'arrangerait. Tu veux que je te dise pourquoi? Non, dit le garçon. Je vais te le dire quand même, répliqua le père. J'ai fait la connaissance ici d'une femme extraordinaire, celle dont on se dit c'est la femme de ma vie, et depuis je n'ai qu'une idée en tête, me marier avec elle. Et puis... Et puis quoi? Dit Jamie. Et puis rejouer du piano, recommencer, reprendre mon métier, dit Simon, tu comprends? Oui, dit Jamie, je comprends, mais moi alors, qu'est-ce que je vais dire à maman? La vérité, dit Simon, juste la vérité. Et il s'apprêtait à ajouter, mais tu n'auras pas à t'en charger, c'est à moi de le lui dire. Il entendit un bruit comme si le téléphone venait de tomber. Anne prit le relais. Elle s'empara du téléphone, tout chaud, mouillé de sueur, larmes morves. Jamie n'arrêtait pas de renifler. Simon pensa, ce petit est enrhumé. « Allô, monsieur Nardis, dit Anne, c'est moi, Anne. »« Ah, c'est vous, dit Simon. Bonjour, ma petite Anne. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi maintenant c'est vous qui me parlez? Il est fâché ?»« Non, dit Anne. »« Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se mouche, il est enrhumé, il pleure, dit Anne. À cause de moi? Mais je plaisantais, voyons, il sait bien que je plaisante toujours. Je sais, dit Anne, avec moi aussi vous plaisantez toujours, mais ce n'est pas pour ça que Jamie pleure. Simon, alors pourquoi allez-vous à la fin me dire ce qui se passe? Anne sentit son courage se liquéfier. Une sensation de corps qui se vide. Elle aussi allait se mettre à pleurer. On lui faisait mal. Elle répliqua, se défendit, décida de foncer tout droit, enfin presque. Suzanne a eu un accident, dit-elle. Ça ne m'étonne pas, dit Simon. Elle conduit comme un pied. Quelle idée aussi de venir me chercher. Et maintenant, je suppose qu'il faut la dépanner. Elle est où?
« À l'hôpital, dit Anne.
Bon sang, dit Simon, vous ne pouviez pas me le dire plus tôt.
Suzanne a eu un accident, dit-il à Debbie. Elle est à l'hôpital. Et c'est grave, dit-il à Anne. La vérité n'avait fait qu'un léger détour. Elle touchait à sa fin. Anne se lança, ou plutôt, elle lança un projectile et après se crispa, priant pour un minimum de dégâts. Et durant le laps de temps qui sépare le tir de l'impact, comme on attend une explosion, elle attendit la réaction de Simon. Celle-ci monta du fond de l'espace sous forme de notes sourdes, percutée dans l'extrême grave, en quelque sorte un grondement zen progressant vers le haut, un juron répété crescendo. Anne perçut bientôt des noms de Dieu aigus comme sifflés et ensuite ce fut confus. La même chose, à peu près la même scène, se produisit à Paris et au bord de la mer. D'un côté à Paris, Anne, dans les bras de Jamie, de l'autre au bord de la mer, Simon dans les bras de Debbie. Même geste de consolation. Sauf que dans un cas, celui de Paris, l'étreinte est légitime. Alors que dans le cas du bord de la mer, elle est morte, répétait Simon dans les bras de Debbie, qui insensiblement le berçait comme un enfant.
Tu te rends compte? Répétait-il. Je suis là, disait Debbie. C'est toujours ce qu'on dit, le serrant dans ses bras.
Elle était là avec lui et Suzy était toute seule à la morgue de l'hôpital, le front froid en attente d'un baiser. Entre les deux hommes, le père et le fils, il fut convenu de pleurer un bon coup dans les bras de sa bien-aimée pour ensuite se rappeler.
Qu'est-ce que tu comptes faire ? Demanda Debbie à Simon avant que celui-ci ne rappelle son fils. Il faut que j'y aille, dit Simon. J'ai besoin d'un verre. Tu me donnes un verre ?
Debbie lui donna un verre.
Simon m'avoua que c'est à ce moment-là, quand il but son verre, à cause de ça, à cause de ce verre, qu'il eut pour Suzy cette bouffée de reconnaissance. Scandaleusement, me disait-il, je la remerciais de me laisser libre.
On ne peut pas être plus seul, ai-je pensé. Je pensais bien sûr à Suzy, mais aussi à lui.
Je vais t'y conduire, dit Debbie.
Simon rappela Jamie. Il devait être 19h15.
L'heure n'a plus d'importance. Je me demande quand même où en était la lumière.
Dans la grande pièce au bord de la mer.
À Paris aussi, elle devait être belle.
Elle est belle à cette heure-ci, à cette époque-ci début juin, pour ceux qui restent et l'apprécient.
On se soucia encore de l'heure quand la question se posa de savoir quand se retrouver là-bas à l'hôpital où est maman, dit Jamie à son père.
En effet, pour les deux couples, le jeu, la distance était inégale. Anne et Jamie avaient à couvrir environ 400 kilomètres.
Simon et Debbie, une centaine.
Comment faire ?
Simon conseilla à son fils d'attendre le lendemain. Jamie refusa.
« Je préfère partir maintenant, dit-il.
Bon, dit Simon, comme tu voudras.
D'ailleurs, moi aussi, je vais partir maintenant. N'est-ce pas, Debbie ?
À qui tu parles, dit Jamie.
À Debbie, dit Simon. Elle va m'emmener dans sa voiture et puis, toi, fais attention, sois prudent. Tu m'entends ?
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après ce moment musical, retour à la suite et à la fin de ce roman de Christian Gailly, Un soir au club. Avant de partir pour l'hôpital, Simon me disait avoir pensé à moi en regardant par la baie vitrée. Il était évidemment gravement préoccupé par le sort de Suzy et pourtant, il a eu cette pensée. abattu par la mort de Suzy, assommé de liberté, et pourtant, il a eu cette pensée. Bouleversé par la nouvelle qui venait de tomber devant lui, à ses pieds, comme une offrande ou une bombe creusant un cratère qu'il envisageait néanmoins de contourner pour continuer. « À vivre !» me disait-il. Et je regardais par la baie en attendant Debbie qui se préparait, elle avait à se changer et à passer quelques coups de fil. Et à un moment donné, j'ai regardé sur la gauche et j'ai vu, au dernier étage mansardé d'un immeuble, une fenêtre aveuglée par un store vert qui s'inscrivait dans le plan gris du toit en zinc et au-dessus du toit une bande de ciel bleu avec un nuage blanc. Et en dépit de mon bonheur trempé de chagrin ou de mon chagrin éclairci par un bonheur qui se présentait comme une percée de soleil dans un ciel de plomb, j'ai pensé à toi, je me suis dit, tiens, si j'étais peintre. « Je suis prête, » dit Debbie. « On peut partir maintenant, » dit-elle, « si tu veux, quand tu voudras. Est-ce que ça va ?»« Oui, ça allait, ça ira. Pour l'instant, ça va, » pensa-t-il. Il appréhendait de voir sa Suzy morte. « C'est comme si j'y étais, » pensa-t-il. « Tu sais où c'est ?» dit-il à Debbie. Elle savait, oui. « Tant mieux, » dit-il, « parce que moi, » elle lui proposa de conduire. « Je préfère pas, » dit-il. Simon avait conduit cette Porsche pour revenir de la plage. Il en rêvait. Eh bien voilà, c'est fait. Plus sérieusement, il rêvait de connaître avant la fin de ses jours un grand amour. Eh bien voilà, c'est là, ça le regarde, ça lui parle, ça lui dit « on y va ». Il rêvait également depuis près de 15 ans de jouir de nouveau d'un piano. Eh bien voilà, c'est possible. Et Suzy dans tout ça. C'est le prix des choses, me disait-il. Sa théorie du prix des choses. Il m'a souvent parlé de cette théorie. Debbie s'était changée. Elle s'était mise en jeune garçon, en pantalon, ses jambes semblaient encore plus longues. Simon eut honte de l'admirer. C'est comme ça, se dit-il, je paie. Je paie déjà, je paierai autant qu'il le faudra, et un jour, peut-être, j'aurai la paix, peut-être. Debbie tourna la clé de contact. Vous écoutez France Inter, il est 20h, dit l'autoradio. Debbie le fit taire. C'est idiot. La peur qu'on parle de Suzy. Bien entendu, l'autoradio n'aurait rien dit, personne ne savait pour Suzy. Son accident de rien, survenu dans une forêt de rien, personne n'en savait rien, sauf Simon et Debbie, Anne et Jamie, les parents d'Anne, l'ingénieur, oui. Il a téléphoné pour remercier Simon de l'avoir sauvé. Lui, son week-end, sa femme et sa petite fille. Il est tombé sur le fils Nardis. « Mon père n'est pas là, lui dit Jamie. Il est parti voir ma mère, sa femme, à l'hôpital. Elle a eu un accident de voiture et elle est morte. »« Sa femme s'est tuée en voiture, » dit l'ingénieur à la sienne. « Tu te rends compte? C'est peut-être de ma faute. Tu crois que je peux lui envoyer des fleurs ?» Il était 19h45. Puis Anne et Jamie sont partis avec le chat. « Oui, je dis bien avec le chat. » Il s'est passé cette chose extraordinaire. En vérité, deux choses extraordinaires se sont passées. Pour l'instant, tenons-nous-en à la première. Au moment de partir, Anne et Jamie ont vu Dingo sortir de sous le canapé et sauter dans le panier. Oui, comme s'il avait compris qu'il ne reverrait plus Suzy. Que son unique chance de la revoir était là, dans ce panier. Blotti au fond de sa cage d'osier, il les regardait, Jamie et Anne, l'air de leur dire « pas d'histoire, j'y vais aussi ». Ça les a fait encore pleurer. Et puis ils ont fermé le panier.
À 20h, ils roulaient tous les trois sur le boulevard périphérique en direction de l'autoroute de la mer. Le cabriolet bleu de Déby roulait le long de la mer. Pour le moment, elle ne pouvait pas s'éloigner de la mer. La route longeait la mer. Il existait un chemin plus direct pour rejoindre les terres et les traverser, mais Déby avait eu ce souci d'esthète de penser, alors que le soir tombait et que les couleurs devenaient proprement douloureuses, qu'emprunter la route de la côte serait apaisant pour Simon. En effet, ça l'apaisait. Bien calé dans le siège passager, à travers le treillis flou des plantes sauvages du bas-côté, Simon regardait l'océan, qui, lui, tournait lentement, forcé de resplendir encore un peu sous un disque de feu, sûrement le soleil. Et pour la première fois, Simon quittait la mer sans amertume, sachant qu'il allait revenir, non pas l'année prochaine, comme chaque fois à la fin des vacances, mais bientôt, tout de suite, dans quelques jours, juste un saut et retour. Il soupira. Puis, quand on quitta la mer, il commença de sérieusement pleurer Suzy. Il pensa que peut-être elle n'avait pas eu le temps de revoir sa vie. Il la revit pour elle. Le fit pour elle et lui. Et tandis que Déby conduisait à présent dans les terres, il ouvrit la grande boîte des photographies, en tira tout un tas de tout format et les classa. J'ai dû m'endormir un moment, dit-il à Déby. Réveillé, il se soucia du chat, se demanda ce que Dingo allait devenir, si Jamie allait accepter de le prendre avec lui, si Anne serait d'accord. Sinon, pensa-t-il. Tu aimes les chats ?
Non, dit Déby, je les ai en horreur. Pourquoi ?
Pour rien, dit Simon. C'est encore loin ?
En disant ça, il revit son Jamie tout petit, qui, en voyage, n'arrêtait pas de dire « C'est quand qu'on arrive ?»
Il était tuant, dit Simon.
« Qui ça ?» dit Déby. « Ton chat ?»«
Non, » dit Simon le petit. « À peine parti, ça commençait. »
Au début, Suzy, ça la faisait rire. Moi, je conduisais, je la regardais, l'air de dire « Tu crois qu'il va se taire ?»«
On arrive, » dit Déby. Il était 21h30. L'hôpital dormait.
« Ça n'encourage pas, on dérange. »
Et puis cette chaleur quand on entre, et puis cette odeur de serre, de vivarium.
Déby suggéra de laisser Simon seul.
« Surtout pas, » dit Simon. « Non, s'il te plaît, reste avec moi, à moins que ça t'ennuie. »«
Mais non, » dit Déby. Elle l'embrassa.
La bonne femme de l'accueil avait dû les voir s'embrasser. « Vous êtes de la famille ?» dit-elle.
« Je suis son mari, » dit Simon.
La bonne femme opina, puis regarda Déby.
« Pas le mari de cette dame, » dit Simon, « le mari de Madame Suzanne Nardis, que vous avez dû mettre quelque part en attendant que je vienne. »
Simon manqua de s'évanouir en entrant dans la pièce nue. Il faisait noir. Les néons s'allumèrent. Simon se tourna vers la bonne femme, lui demanda pourquoi elle avait éteint la lumière. « Vous pensiez que je n'allais pas venir, vous l'avez laissée dans le noir ?»
La bonne femme ne répondit pas, puis se retira.
Un tel silence. Les néons grésillaient. Simon flancha une nouvelle fois. Déby lui broya la main dans la sienne. La douleur le redressa. Il se pencha. « Ma petite Suzy, » dit-il. Il appuya ses lèvres sur le front froid, puis recula, vaguement terrorisé.
22h. Il faisait nuit. Anne et Jamie ne se trouvaient qu'à mi-chemin. Jamie détestait conduire la nuit. Il n'arrêtait pas de répéter « Je ne vois rien !» pour ensuite ajouter « À quelle heure on va arriver ?» Il s'adressait à Anne sans la regarder. Ses yeux d'halluciné demeuraient captifs des phares, hypnotisés. Anne ne lui répondait plus. Au début, elle répondait « On verra bien !» et puis plus rien.
« Tu ne réponds pas, tu t'en fous, tu dors, c'est pas ta mère, c'est pour ça !»
Si c'était ta mère, tu te soucierais de l'heure comme moi.
On ne sera pas là-bas avant minuit. Je le sens. Tu entends ? Je le sens. 23h, dit Anne. 23h30.
Jamie, tu crois qu'ils nous laisseront la voir ?
Oui, dit Anne.
C'est ouvert toute la nuit.
Tout à coup, Jamie en eut assez. Dingo dans son panier n'arrêtait pas de miauler.
Jamie dit,
Sors-le de là. Chacun sait que les plaintes du chat ressemblent à des pleurs de bébé. C'est insupportable quand on est fatigué, soi-même dans la peine.
Libère-le, dit Jamie. Laisse-le aller, je le connais. Il va se coucher sur la banquette, il va être sage. Pas vrai, Dingo ?
Anne se retourna et tendit le bras. Le panier était trop loin.
Arrête-toi, dit-elle, je n'y arrive pas.
Non, dit Jamie, je ne m'arrête pas. Enlève ta ceinture et débrouille-toi.
Merde, alors, c'est quand même pas compliqué.
Dingo dormait avec Suzy quand Simon ne rentrait pas. Il dormait avec elle sur le lit. Il se mettait contre son ventre, dans le creux de sa hanche. C'est comme ça, dans cette position, qu'on le trouva.
La radio, cette fois, en parla.
Vous écoutez France Inter, il est 13h. Avant d'ouvrir cette édition de la mi-journée, une petite fable que, pour ma part, je trouve très tendre, de nature à vous émouvoir, je l'espère, et qui peut-être vous rendra meilleur.
Nous venons d'apprendre qu'un chat nommé Dingo, tout noir avec un collier rouge, aurait, semble-t-il, dans la nuit parcouru plus de 100 km pour rejoindre la morgue de l'hôpital où gisait sa maîtresse, victime d'un accident de la route.
Donc, vous qui devez rentrer ce soir, prudence, prudence. La journée sera rouge.
Ma femme Jeanne était dans la cuisine quand elle entendit ça.
Jeanne écoute toujours la radio quand elle est dans la cuisine.
On avait des invités comme chaque week-end quand les beaux jours reviennent.
Au cours du déjeuner en plein air embaumé de tilleuls sous le grand parasol, Jeanne, entre deux chants d'oiseaux, me dit « Il s'appelle comment déjà ? Le chat de Suzy. »
Voilà, nous avons donc terminé ce roman de Christian Gailly, « Un soir au club ». Nous nous retrouverons demain pour une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.